Bienvenue chez vous. Notre sujet du jour, l'immigration au féminin. La migration des femmes est restée longtemps une réalité peu connue en France et dans le monde occidental. On se représente plus souvent l'homme seul, migrant pour des raisons économiques ou politiques, pensant que les femmes immigrent uniquement pour accompagner ou rejoindre leur conjoint, que ce n'est donc qu'un phénomène marginal. Et pourtant, cette migration au féminin ne cesse de croître depuis quelques décennies et marque un changement important du profil de l'immigration dans le monde. La particularité de l'immigration aujourd'hui, c'est que de plus en plus de femmes jeunes, célibataires ou ayant déjà une famille, partent seules à l'étranger pour trouver du travail, pour faire des études et s'installer durablement. Parmi les populations migrantes, la répartition entre hommes et femmes est beaucoup plus équilibrée aujourd'hui, même si cette proportion évolue selon les nationalités. À titre d'exemple, en France, les femmes représentent 35% de la demande d'asile, 30% des travailleurs permanents et la moitié des effectifs étudiants. Nous allons donc, avec nos invités, essayer de voir dans quelle mesure les migrations des femmes sont différentes de celles des hommes, comment se traduit cette différence sur le plan social, économique et professionnel, et quel rôle joue la société civile dans l'accueil et l'intégration de ces femmes. Bienvenue chez vous, accueille aujourd'hui Ferten Djendoubi, juriste au Centre d'information sur le droit des femmes, en charge du Bureau régional des ressources juridiques internationales, dit B2RJ. Elinda Guéry, doctorante en histoire, attachée d'enseignement et de recherche à l'Université d'Avignon. Bonjour Linda, bonjour Ferten.
Bonjour.
Alors, pour commencer ce débat, je vais commencer par Linda. Il y a quelques années, une nouvelle visibilité des femmes immigrées qui fait croire que cette migration est une nouveauté. Mais vos recherches, à vous, vos recherches historiques, nous montrent qu'il n'en est rien. Alors peut-être que vous pouvez nous éclairer, nous expliquer cette histoire de l'immigration féminine.
Oui, alors il faut dire une chose. D'abord, c'est que la visibilité des immigrantes n'est pas liée à leur présence, puisque les grandes périodes d'immigration ont toujours concerné des hommes et des femmes. Mais on peut remarquer qu'à partir du milieu des années 70, les immigrantes deviennent visibles dans l'espace public et dans les sciences sociales. Alors pourquoi généralement on explique ce phénomène par le regroupement familial en disant, suite à l'immigration de main-d'œuvre des années 55-75, les femmes ont rejoint les travailleurs immigrés. Mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en fait, l'immigration familiale était déjà très importante avant le milieu des années 70 et que cette visibilité nouvelle est plutôt due à une décision étatique en fait de fermeture à l'immigration de main-d'œuvre et à une prise de conscience de l'installation des travailleurs immigrés en France.
Donc c'est plus lié à la politique du pays d'accueil qu'à à la réalité de ces femmes et à leurs objectifs propres ou leur réalité du pays d'origine.
Voilà, parce que les flux d'immigration diffèrent pas d'un coup à partir de 1974-75, mais c'est une décision étatique qui a rendu ces femmes beaucoup plus visibles. Il y a un autre facteur aussi qui explique cette visibilité plus importante, c'est le féminisme des années 70 qui va mettre au cœur l'espace public la question des femmes. Et c'est des féministes aussi, des immigrantes elles-mêmes féministes, vont aussi rendre plus visible leur situation.
D'accord. En fait, cette nouvelle visibilité, c'est vrai qu'on parle de la France, mais en général, sur le plan mondial, je veux dire, c'est le phénomène est le même.
Voilà. Alors, à partir du milieu des années 90, en fait, au sein des institutions internationales, la question des immigrantes aussi va émerger. Il va y avoir des statistiques qui vont montrer que les femmes sont de plus en plus nombreuses parmi les flux de migration. Même si elles étaient déjà importantes, en fait, elles vont devenir de plus en plus nombreuses dans les flux migratoires. Donc,
je pense que Fertin, vous vouliez prendre la parole.
Non, c'était pour confirmer en fait la nouvelle visibilité, surtout au sein des institutions, puisque l'ONU dans les années 90 est préoccupée des femmes migrantes et que nous avons vu l'émergence de la conférence donc des femmes, hein, donc avec la marche mondiale des femmes à Pékin en 95 et à New York en 2000, et avec des réunions récurrentes sur les femmes migrantes.
Alors il y a aussi un autre, cette nouvelle visibilité du milieu des années 90, ça s'explique aussi par un contexte de restriction de l'immigration au niveau européen par exemple, dont les femmes sont particulièrement victimes. Du coup, il va y avoir des luttes aussi nouvelles d'immigrantes, ils vont faire émerger cette question-là, la question des discriminations notamment.
Alors je sais que Linda, votre étude s'est faite essentiellement sur le département des Bouches-du-Rhône. Juste une petite question, peut-on parler d'une spécificité marseillaise en termes de migration féminine ?
Alors déjà, Marseille est une ville d'immigration, ça depuis longtemps, depuis le 19e siècle. C'est une ville carrefour, une ville portuaire, une ville industrielle. Et la part des femmes parmi les étrangers recensés est assez importante depuis longtemps, puisque c'est une ville ancienne d'immigration. Donc elle est particulièrement importante dans l'entre-deux-guerres. Cette part des femmes, elle est supérieure au niveau national. Et ça s'explique par cette histoire spécifique d'une ville d'immigration comme les Marseilles.
Ok. Écoutons maintenant deux témoignages de femmes immigrées. D'abord, Yamina, une Algérienne, qui suit un cours d'alphabétisation à l'association Confluence Méditerranéenne.
Bon. Allez, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Voilà, comme d'habitude, nous avons des séances d'oral, nous avons des séances d'exercice. Chaque fois, le cours est différent. Donc aujourd'hui, on va parler des métiers. Et aujourd'hui, moi, le thème que j'ai choisi, c'est l'intervenante auprès d'enfants. Donc, qui peut me citer certains métiers ? Alors.
Assistante maternelle.
Assistante maternelle. Fatima. C'est tout ? Il n'y a que... Maternelle.
Médecin.
Médecin. Citer encore. Mourza.
Aide-soignante.
Oui. Voilà, donc nous aujourd'hui on va parler d'intervenante auprès d'enfants. Donc est-ce que vous avez une idée de ce que peut être ce métier-là ?
C'est de s'occuper des enfants, très bien. C'est pas le nôtre.
Donc il va y avoir quoi ? Il va y avoir donc le biberon.
Bon, il y a des fois ensuite, doudou, il y a des enfants qui ont du doudou.
Bon, on a parlé du biberon,
donc sa toilette.
Après, on fera des exercices et puis déjà savoir que biberon s'écrit avec B-I-B-E-R-O-N, biberon.
Et je suis arrivée en France l'année 2005. Ma mère est française, on a eu la nationalité française. C'est là-bas au Bled. Je suis algérienne, nationalité algérienne. Après, on a préparé tous nos documents, nos papiers là-bas à l'ambassade français à Alger. Et notre arrivée, je suis venue juste avec ma petite fille, elle a l'âge de 5 mois. Et j'ai préparé tout ici. Bien sûr, j'ai trouvé beaucoup de difficultés. La langue et l'hébergement aussi. Et j'étais plus d'un an chez ma sœur. Elle a beaucoup d'enfants et tout. Après, j'ai fait le regroupement familial à mon mari. Et on a amené mes fils et mes petites filles. Après, on a eu beaucoup de problèmes. On a logé un T3. C'était le début. Et trop cher. Et trop petit aussi. Après, petit à petit, la CAF nous a aidés. Nous a aidés à payer le logement avec les Rémi et tout. Et maintenant, moi, je suis de cours. Je suis ici de cours. Tout l'autographe et l'écrit, j'ai beaucoup de difficultés. Maintenant, je comprends très bien. J'y lis très bien. Les gros problèmes, c'est l'autographe. Et la femme là-bas, elle ne sort pas, elle ne travaille pas. Les premières années, c'est dur de travailler. Si tu maries avec une grande famille, il faut rester à la maison. Il faut, avec les enfants, le manger et tout. Mais maintenant, non. Ici, je sors, je prends le cours, je fais l'administration. C'est une liberté, mais c'est une liberté avec des conditions et tout. Je ne sentais pas faible, je sentais fort, je suis fort. Même là-bas, j'ai travaillé et j'ai continué mes études, mais ce n'est pas comme ici. Je me sentais fort ici.
Votre mari, il a bien accepté cette liberté non. que vous avez prise?
Non, non, pas du tout. Au début, on a eu beaucoup de problèmes. On a beaucoup disputé. Il est allé là-bas au bled. Après, il est venu. Mais comme on avait des enfants, il a accepté. Petit à petit, il a accepté. Il commence à s'adapter à la vie ici. Mais de vie, c'est difficile.
Écoutons maintenant Francesca, une Italienne qui fait un bilan de compétences dans la même association.
Je suis partie exactement le 9 septembre 2008 pour suivre mon compagnon qui est marseillais. Donc, on vit ensemble ici maintenant.
Vous êtes dans une nouvelle vie?
Oui. Oui, ça me plaît. C'est très bien commencé. J'espère que va continuer comme ça.
C'est la sensation que vous avez, que c'est une nouvelle vie?
Oh oui. Ah, mais c'est vrai. C'est vraiment ça, parce que en le sent tout en Italie, c'est vraiment recommencé. J'ai des journées, je vis des journées complètement différentes par rapport à... il y a 3 mois, en Italie, je faisais une vie complètement différente. Maintenant, c'est vraiment recommencé. J'ai toute la journée pour moi, vide. Et il faut la remplir des choses nouvelles.
Et là-bas, vous avez laissé quoi? Un travail?
Tout ma vie. La famille, les amis, le travail. Quand même, j'ai pris un congé, donc... Le travail, pour l'instant, il m'attend encore en Italie. J'ai travaillé comme éducatrice auprès de personnes handicapées, adultes.
Et par rapport à l'association ici, Association Confluence Méditerranéenne, comment vous êtes arrivée ici?
C'était l'agent de l'IMPE qui m'a envoyé ici pour faire le BCA.
Le BCA, c'est quoi?
Le bilan des compétences acquises.
Et vous êtes contente de ce bilan de compétences?
Ah oui, beaucoup.
Pourquoi?
Pourquoi j'ai eu la possibilité de ressentir un soutien. Déjà, c'est important. Et après, il m'a beaucoup clarifié les idées. Sur mes compétences et sur ce que je peux chercher. Parce qu'en fait, en arrivant en France, je ne savais pas que toutes les possibilités de métier existantes. Et alors là, avec Nadia Gazmi, elle m'a conseillé de voir, bien sûr, le milieu social, mais aussi autre chose possible pour moi si jamais je ne trouve pas là où je cherche.
Et là, vous vous sentez comment par rapport au français ?
Je me sens encore en difficulté, voilà. Je n'ai pas toujours le courage d'intervenir même avec un groupe d'amis. Donc, quand je voudrais exprimer moi-même en disant quelque chose un peu plus approfondi, un peu plus compliqué, c'est là qui me manque beaucoup, l'Italie et l'italien, pour m'exprimer vraiment à fond. C'est ça un peu le problème, je crois. De gens qui viennent de l'étranger aussi, qu'une partie de sa propre personnalité, c'est forcément caché à cause de la langue.
Et quelle partie de vous est cachée ici ?
La partie de moi qui sort avec ces nuances de langage. Toutes les subtilités que je peux exprimer en Italie avec mes copines. Et ça, c'est pas possible avec les amis français pour l'instant. Et donc, la conversation reste quand même à un niveau un peu plus formel, officiel, un peu plus froid de ce que je voudrais transmettre. Parce que par rapport à mes compétences, je n'ai pas de problème à le démontrer. Je suis sûre de moi du côté du travail. Mais la première entretien, c'était une catastrophe à cause de moi, parce que j'avais peur et mon français était beaucoup moins de ce que je pouvais faire, en fait. La peur de faire des erreurs, d'être embarrassée, d'être un peu maladroite, c'est quelque chose en plus qu'il faut affronter quand on est étranger. La peur aussi de dire des choses qui ne sont pas comprises ou mal comprises, encore pire.
Voilà, nous venons d'entendre le témoignage de ces deux femmes immigrées, deux parcours différents, deux réalités, des difficultés différentes. Alors, Fertène, je voulais vous demander, qui sont les femmes que vous recevez, vous, au Centre d'information sur le droit des femmes ?
Eh bien, à l'image de ces deux femmes, nous avons tous les profils, donc en termes d'âge, en termes de situation de couple. Hein, nous recevons des personnes en couple, mais également célibataires, en termes également de nationalité d'origine, puisque nous ne recevons pas uniquement des femmes venant du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Nous recevons également des personnes d'Asie, d'Europe, et pas seulement de l'Europe de l'Est, mais également des Espagnols, des Portugaises, de l'Europe du Nord, des Américaines de temps en temps. Donc en fait, les questions qui sont soumises au Centre d'information droit des femmes sont de deux types, soit des informations juridiques, soit des informations sur l'emploi. Et avec l'exemple de Francesca, on le voit bien, quelquefois les femmes immigrées qui viennent vers nous veulent juste pouvoir mettre en application en France leur parcours professionnel acquis au pays d'origine. Hein, comme l'a bien dit Linda, ce n'est plus une immigration seulement familiale, c'est aussi une immigration d'activité professionnelle. Et donc, elles viennent avec des diplômes, souvent. Elles viennent avec une expérience professionnelle qu'elles espèrent pouvoir faire valider en France, mais avec beaucoup de difficultés. Alors, les questions juridiques sont souvent autour du thème du droit de la famille, hein, que ce soit mariage ou dissolution de mariage, et également en matière de garde d'enfants et droit de visite, et également pension alimentaire à recevoir. Il y a beaucoup aussi de questions sur le droit des étrangers, évidemment, hein, sur les modalités d'obtention d'un titre de séjour, de son renouvellement également, mais aussi l'accès à la nationalité française. On le voit de plus en plus, cette hypothèse vient plus rapidement dans les parcours. De mon point de vue, au bout de 5 ans, on a déjà cette volonté d'être citoyenne française. Et enfin, il y a bien sûr toutes les questions liées au droit du travail, l'accès à l'emploi. Et donc, c'est pas tant l'esprit, la lutte contre les discriminations, c'est vraiment l'accès aux droits sociaux de la même manière que tous les citoyens français.
Et donc, vous, quand vous les recevez, votre rôle, c'est quoi? C'est de les informer, de les aiguiller sur d'autres associations, de les aider concrètement, peut-être, à monter des dossiers administratifs. Comment se joue quel est votre rôle exactement?
Alors, pour ce qui concerne le Pôle emploi, nous avons des accompagnateurs Pôle emploi, donc que ce soit du dispositif Pôle 13, PLI, ou alors avec le BAIE, qui est le Bureau d'accompagnement individualisé à l'emploi, donc selon les profils, donc si elles sont érémistes, ce sont les accompagnatrices Pôle 13 qui s'en occupent, et donc là, ce sont des dispositifs institutionnels, hein, bien établis, donc c'est une aide à la constitution d'un CV, ou alors, comme pour Francesca, la direction vers un bilan de compétences acquis, d'accord? Alors, pour ce qui concerne les informations juridiques, encore une fois, c'est la diffusion de l'information, parce que pour aider à l'autonomie des femmes, nous considérons qu'elles doivent d'abord avoir accès à leurs droits et donc avoir connaissance de ces droits. Donc, nous leur donnons le droit, nous leur donnons également les procédures administratives à suivre, mais nous ne les accompagnons pas. Nous ne substituons pas aux assistantes sociales ou aux services publics préfectoraux, par exemple.
D'accord, vous donnez l'information et vous aiguillez ces femmes vers des structures appropriées. Nous arrivons au terme de la première partie de l'émission « Bienvenue chez vous » sur l'immigration au féminin. Merci à nos invités Linda Guéry, Fertin Djendoubi. Merci à l'association Confluence Méditerranéenne. Merci à Katia Kovacic pour les reportages. Cette émission a été préparée et animée par Asma Essid. À bientôt pour la suite de notre programme sur l'immigration au féminin.